Vouloir conduire des créatures humaines, autrui ou soi-même, vers le bien en indiquant seulement la direction, sans avoir veillé à assurer la présence des mobiles correspondants, c'est comme si on voulait, en appuyant sur l'accélérateur, faire avancer une auto vide d'essence. Ou encore, c'est comme si l'on voulait faire brûler une lampe à huile sans y avoir mis d'huile. Cette erreur a été dénoncée dans un texte assez célèbre, assez lu, relu et cité depuis 20 siècles. Néanmoins, on la commet toujours. On peut assez facilement classer les moyens d'éducation enfermés dans l'action publique. D'abord, la crainte et l'espérance, provoquées par les menaces et les promesses. Deuxièmement, la suggestion. Troisièmement, l'expression, soit officielle, soit approuvée par une autorité officielle, d'une partie des pensées qui, dès avant d'avoir été exprimées, se trouvaient réellement au cœur des foules ou au cœur de certains éléments actifs de la nation. Quatrièmement, l'exemple. Cinquièmement, les modalités mêmes de l'action et des organisations forgées pour elle. Le premier moyen est le plus grossier, et il est toujours employé. Le second l'est par tous aujourd'hui. C'est celui dont le maniement a été génialement étudié par Hitler. Les trois autres sont ignorés. Il faut essayer de les concevoir relativement aux trois formes successives que notre action publique est susceptible d'avoir. La forme actuelle, l'acte de la prise du pouvoir au moment de la libération du territoire, l'exercice du pouvoir à titre provisoire au cours des mois suivants. Actuellement, nous ne disposons que de deux intermédiaires, la radio et le mouvement clandestin. Pour les foules françaises, la radio compte presque seule. Le troisième des cinq procédés énumérés ne doit nullement être confondu avec le second. La suggestion est, comme l'a vu Hitler, une emprise. Elle constitue une contrainte. La répétition, d'une part, d'autre part, la force dont le groupe d'où elle émane dispose, ou qu'il se propose de conquérir, lui donne une grande part de son efficacité. L'efficacité du troisième procédé est d'une toute autre espèce. Elle a son fondement dans la structure cachée de la nature humaine. Il arrive qu'une pensée, parfois intérieurement formulée, parfois non formulée, travaille sourdement l'âme et pourtant n'agit sur elle que faiblement. Si on entend formuler cette pensée hors de soi-même, par autrui et par quelqu'un aux paroles de qui on attache de l'attention, elle en reçoit une force centuplée et peut parfois produire une transformation intérieure. Il arrive aussi qu'on ait besoin, soit qu'on s'en rende compte ou non, d'entendre certaines paroles qui, si elles sont effectivement prononcées et viennent d'un lieu d'où l'on attend naturellement du bien, injectent du réconfort, de l'énergie, et quelque chose comme une nourriture. Ces deux fonctions de la parole, ce sont, dans la vie privée, des amis ou des guides naturels qui les remplissent. D'ailleurs, en fait, très rarement. Mais il est des circonstances où le drame public l'emporte tellement dans la vie personnelle de chacun, sur les situations particulières, que beaucoup de pensées sourdes et de besoins sourds de cette espèce se trouvent être les mêmes chez presque tous les êtres humains qui composent un peuple. Cela fournit la possibilité d'une action qui, tout en ayant pour objet tout un peuple, reste par essence une action non pas collective, mais personnelle. Ainsi, loin d'étouffer les ressources profondes situées au secret de chaque âme, ce que fait inévitablement, par la nature des choses, toute action collective, quelle que soit l'élévation des buts poursuivis, cette espèce d'action les réveille, les excite et les fait croître. Mais qui peut exercer une telle action? Dans les circonstances habituelles, il n'est peut-être aucun lieu d'où elle puisse être exercée. Des obstacles très forts empêchent qu'elle puisse l'être, sinon partiellement et à un faible degré par un gouvernement. D'autres obstacles apportent un empêchement semblable à ce qu'elle soit exercée d'un lieu autre que l'État. Mais, à cet égard, les circonstances où se trouve actuellement la France sont merveilleusement, providentiellement favorables. À beaucoup d'autres égards, il a été désastreux que la France n'ait pas eu à Londres, comme d'autres pays, un gouvernement régulier. Mais, à cet égard-là, c'est exceptionnellement heureux. Et de même, il est heureux à cet égard que l'affaire d'Afrique du Nord n'ait pas abouti à la transformation du comité national en gouvernement régulier. La haine de l'État, qui existe d'une manière latente, sourde et très profonde en France depuis Charles VI, empêche que des paroles émanant directement d'un gouvernement puissent être accueillis par chaque Français comme la voix d'un ami. D'un autre côté, dans une action de cette espèce, les paroles doivent avoir un caractère officiel pour être vraiment efficaces. Les chefs de la France combattante constituent quelque chose d'analogue à un gouvernement dans la mesure exacte qui est indispensable pour que leur parole ait un caractère officiel. Le mouvement garde assez sa nature originelle, celle d'une révolte jaillie du fond de quelques âmes fidèles et complètement isolées, pour que les paroles qui en émanent puissent avoir, à l'oreille de chaque Français, l'accent proche, intime, chaleureux, tendre, d'une voix d'ami. Et par-dessus le reste, le général de Gaulle, entouré de ceux qui l'ont suivi, est un symbole. Le symbole de la fidélité de la France à elle-même, concentré un moment en lui presque seul. Et surtout, le symbole de tout ce qui, dans l'homme, refuse la basse adoration de la force. Tout ce qui est dit en son nom a, en France, l'autorité attachée à un symbole. Par suite, quiconque parle en son nom peut, à son gré, et selon ce qui paraît préférable à tel ou tel moment, puiser l'inspiration au niveau des sentiments et des pensées qui fermentent en fait dans l'esprit des Français ou à un niveau plus élevé, et en ce cas aussi élevé qu'il veut. Rien n'empêche certains jours de la puiser dans la région située au-dessus du ciel. Autant ce serait inconvenant pour des paroles émanant d'un gouvernement, souillé par nécessité de toutes les bassesses liées à l'exercice d'un pouvoir. Autant, c'est convenable pour des paroles émanant d'un symbole qui représente ce qui, aux yeux de chacun, est le plus haut. Un gouvernement qui emploie des paroles, des pensées trop élevées pour lui, loin d'en recevoir un éclat quelconque, les discrédite et se ridiculise. C'est ce qui s'est produit pour les principes de 1789 et la formule « liberté, égalité, fraternité » au cours de la Troisième République. C'est ce qui s'est produit pour les mots, souvent par eux-mêmes d'un niveau très élevé, mis en avant par la prétendue « révolution nationale ». Dans ce second cas, il est vrai, la honte de la trahison a amené le discrédit avec une rapidité foudroyante. Mais presque certainement, il serait venu même autrement, quoique beaucoup moins vite. Le mouvement français de Londres a actuellement, pour peu de temps peut-être, ce privilège extraordinaire qu'étant dans une large mesure symbolique, il lui est permis de faire rayonner les inspirations les plus élevées sans discrédit pour elle ni inconvenance de sa part. Ainsi, de l'irréalité même dont il est atteint dès l'origine, à cause de l'isolement primitif de ceux qui l'ont lancé, il peut tirer, s'il sait en faire usage, une bien plus grande plénitude de réalité. L'efficacité est rendue parfaite dans la faiblesse, dit saint Paul. C'est un singulier aveuglement qui a causé, dans une situation pleine de possibilités aussi merveilleuses, le désir de descendre à la situation banale, vulgaire, d'un gouvernement d'émigrés. Il est providentiel que ce désir n'ait pas été satisfait. À l'égard de l'étranger, d'ailleurs, les avantages de la situation sont analogues. Depuis 1789, la France a, en fait, parmi les nations, une position unique. C'est quelque chose de récent. 1789 n'est pas loin. De la fin du XIVe siècle, époque des répressions féroces accomplies dans les villes flamandes et françaises par Charles VI enfant, jusqu'en 1789, la France n'avait guère représenté aux yeux de l'étranger, du point de vue politique, que la tyrannie de l'absolutisme et la servilité des sujets. Quand Du Bellay écrivait « France, mère des arts, des armes et des lois », le dernier mot était de trop. Comme Montesquieu l'a très bien montré, comme Retz, avant lui, l'avait expliqué avec une lucidité géniale, il n'y avait pas du tout de loi en France depuis la mort de Charles V. De 1715 à 1789, la France s'est mise à l'école de l'Angleterre avec une ferveur pleine d'humilité. Les Anglais semblaient alors être seuls dignes du nom de citoyens au milieu de populations esclaves. Mais, après 1792, quand la France, après avoir remué le cœur de tous les opprimés, se trouva engagée dans une guerre où elle avait l'Angleterre pour ennemi, tout le prestige des idées de justice et de liberté fut concentré sur elle. Il en est résulté pour le peuple français, au cours du siècle suivant, une espèce d'exaltation que les autres peuples n'ont pas connue et dont ils ont reçu de lui le rayonnement. La Révolution française a correspondu, malheureusement d'ailleurs, à un si violent arrachement du passé sur tout le continent européen qu'une tradition qui remonte à 1789 est en pratique l'équivalent d'une tradition antique. La guerre de 1870 a montré ce qu'était la France aux yeux du monde. Dans cette guerre, les Français étaient les agresseurs, malgré la ruse de la dépêche d'Ems. Cette ruse même est la preuve que l'agression est venue du côté français. Les Allemands, désunis entre eux, frémissant encore du souvenir de Napoléon, s'attendaient à être envahis. Ils furent très surpris d'entrer dans la France comme dans du beurre. Mais ils furent bien plus surpris encore de se trouver un objet d'horreur aux yeux de l'Europe, alors que leur seule faute était de s'être défendue victorieusement. Mais la vaincue était la France, et malgré Napoléon, à cause de 1789, c'était assez pour que les vainqueurs fissent horreur. On voit dans le journal intime du prince impérial Frédéric quelle surprise douloureuse causa, au meilleur des Allemands, cette réprobation pour eux incompréhensible. De là, peut-être, date chez les Allemands le complexe d'infériorité, le mélange en apparence contradictoire d'une mauvaise conscience et du sentiment qu'on leur fait une injustice, et la réaction de férocité. En tout cas, à partir de ce moment, dans la conscience européenne, le Prussien se substitua à ce qui, jusqu'alors, avait semblé le type de l'Allemand, c'est-à-dire le musicien rêveur, aux yeux bleus, gutmutig, fumeur de pipe et buveur de bière. Totalement inoffensif, qu'on trouve encore dans Balzac. Et l'Allemagne ne cessa de devenir de plus en plus semblable à sa nouvelle image. La France subit un préjudice moral à peine moins grand. On admire son relèvement après 1871, mais on ne voit pas à quel prix il a été acheté. La France était devenue réaliste. Elle avait cessé de croire en elle-même. Le massacre de la Commune, tellement surprenant par la quantité et par la férocité, mit d'une manière permanente chez les ouvriers le sentiment d'être des parias exclus de la nation et chez les bourgeois, par l'effet d'une mauvaise conscience, une espèce de peur physique des ouvriers. On s'en est aperçu encore en juin 1936, et l'effondrement de juin 1940 est en un sens un effet direct de cette guerre civile si brève et si sanglante de mai 1871, qui a persisté sourdement pendant presque trois quarts de siècle. Dès lors, l'amitié entre la jeunesse des écoles et le peuple, amitié dans laquelle toute la pensée française du XIXe siècle avait puisé une sorte de nourriture, devenait un simple souvenir. D'un autre côté, l'humiliation de la défaite orientait la pensée de la jeunesse bourgeoise, par réaction, vers la conception la plus médiocre de la grandeur nationale. Obsédée par la conquête qu'elle avait subie et qui l'avait diminuée, la France ne se sentait plus capable d'une vocation plus haute que celle de conquérir. Ainsi, la France devint une nation comme les autres, ne songeant plus qu'à se tailler dans le monde sa part de chair jaune et noire, et à se procurer en Europe l'hégémonie. Après une vie de si intense exaltation, la chute à un niveau si bas ne pouvait s'opérer sans un profond malaise. Le point extrême de ce malaise a été juin 1940. Il faut bien le dire, parce que c'est vrai. Après le désastre, la première réaction de la France a été de vomir son propre passé, son passé proche. Ce ne fut pas un effet de la propagande de Vichy. Au contraire, ce fut la cause qui procura d'abord à la Révolution nationale une apparence de succès. Et ce fut une réaction légitime et saine. L'unique aspect du désastre qui put être regardé comme un bien, c'était la possibilité de vomir un passé dont il avait été l'aboutissement. Un passé où la France n'avait pas fait autre chose que réclamer les privilèges d'une mission qu'elle avait reniée parce qu'elle n'y croyait plus. À l'étranger, l'écroulement de la France n'a causé d'émotion que là où l'esprit de 1789 avait apporté quelque chose. L'anéantissement momentané de la France en tant que nation peut lui permettre de redevenir, parmi les nations, ce qu'elle a été et ce qu'on attendait depuis longtemps qu'elle redevienne, une inspiration. Et pour que la France retrouve une grandeur dans le monde, grandeur indispensable à la santé même de sa vie intérieure, il faut qu'elle devienne une inspiration avant d'être redevenue, par la défaite des ennemis, une nation. Après, ce serait probablement impossible, pour plusieurs raisons. Là aussi, le mouvement français de Londres est dans la meilleure situation qu'on puisse rêver, s'il sait l'utiliser. Il est exactement aussi officiel qu'il est nécessaire de l'être pour parler au nom d'un pays. N'ayant pas sur les Français d'autorité gouvernementale, même nominale, même fictive, tirant tout du libre consentement, il a quelque chose d'un pouvoir spirituel. La fidélité incorruptible aux heures les plus sombres, le sang versé tous les jours librement en son nom, lui donne droit à user librement des plus beaux mots du langage. Il est situé exactement comme il doit l'être pour faire entendre au monde le langage de la France. Un langage qui tire son autorité non pas d'une puissance qui a été anéantie par la défaite, ni d'une gloire qui a été effacée par la honte, mais d'abord d'une élévation de pensée qui soit à la mesure de la tragédie présente. Ensuite, d'une tradition spirituelle gravée au cœur des peuples. La double mission de ce mouvement est facile à définir. Aider la France à trouver au fond de son malheur une inspiration conforme à son génie et aux besoins actuels des hommes en détresse. Répandre cette inspiration, une fois retrouvée ou au moins entrevue à travers le monde. Si on s'attache à cette double mission, beaucoup de choses d'un ordre moins élevé seront accordées par surcroît. Si on s'attache d'abord à ces choses-là, celles-là même nous seront refusées. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une inspiration verbale. Toute inspiration réelle passe dans les muscles et sort en action. Et aujourd'hui, les actions des Français ne peuvent être que celles qui contribuent à chasser l'ennemi. Pourtant, il ne serait pas juste de penser que le mouvement français de Londres a pour mission seulement d'élever au plus haut degré d'intensité possible l'énergie des Français dans la lutte contre l'ennemi. Sa mission est d'aider la France à retrouver une inspiration authentique et qui, par son authenticité même, s'épanche naturellement en dépenses d'efforts et d'héroïsme pour la libération du pays. Cela ne revient pas au même. C'est parce qu'il est nécessaire d'accomplir une mission d'un ordre si élevé que les moyens grossiers et efficaces des menaces, des promesses et de la suggestion ne sauraient suffire. Au contraire, l'usage de paroles répondant à des pensées sourdes et à des besoins sourds des êtres humains qui composent le peuple français, c'est là un procédé merveilleusement bien adapté à la tâche qu'il s'agit d'accomplir, à condition qu'il soit mis en œuvre comme il faut. Pour cela, il faut d'abord en France un organisme récepteur, c'est-à-dire des gens dont la première tâche, la première préoccupation, soit de discerner ces pensées sourdes, ces besoins sourds, et de les communiquer à Londres. Ce qui est indispensable pour cette tâche, c'est un intérêt passionné pour les êtres humains, quels qu'ils soient, et pour leur âme, une capacité de se mettre à leur place et de faire attention aux signes des pensées non exprimées, un certain sens intuitif de l'histoire en cours d'accomplissement et la faculté d'exprimer par écrit des nuances délicates et des relations complexes. Étant donné l'étendue et la complexité de la chose à observer, il devrait y avoir un grand nombre de tels observateurs. Mais en fait, c'est impossible. Du moins, est-il urgent d'utiliser ainsi quiconque est utilisable ainsi, sans exception. En supposant qu'il y a en France un organe récepteur insuffisant. Il ne peut pas ne pas l'être. Mais réel. La seconde opération, la plus importante de très loin, a lieu à Londres. C'est celle du choix. C'est celle qui est susceptible de modeler l'âme du pays. La connaissance des paroles susceptibles d'avoir un écho au cœur des Français, comme répondant à quelque chose qui est déjà dans leur cœur, cette connaissance est uniquement une connaissance de fait. Elle ne contient aucune indication d'un bien, et la politique, comme toute activité humaine, est une activité dirigée vers un bien. L'état du cœur des Français, ce n'est pas autre chose qu'un fait. En principe, cela ne constitue ni un bien, ni un mal. En fait, cela est composé d'un mélange de bien et de mal, selon des proportions qui peuvent beaucoup varier. C'est là une vérité évidente, mais qu'il est bon de se répéter, parce que la sentimentalité naturellement attachée à l'exil pourrait la faire plus ou moins oublier. Parmi toutes les paroles susceptibles d'éveiller un écho dans le cœur des Français, il faut choisir celle dont il est bon qu'un écho soit éveillé. Dire et redire celle-là. Taire les autres, afin de provoquer l'extinction de ce qu'il est avantageux de faire disparaître. Quels seront les critères du choix? On peut en concevoir deux. L'un, le bien, au sens spirituel du mot. L'autre, l'utilité, c'est-à-dire, bien entendu, l'utilité relativement à la guerre et aux intérêts nationaux de la France. Au sujet du premier critère, il y a tout d'abord un postulat à examiner. Il faut le peser très attentivement, très longuement, en son âme et conscience, puis l'adopter ou le rejeter une fois pour toutes. Un chrétien ne peut que l'adopter. C'est le postulat que ce qui est spirituellement bien est bien à tous égards, sous tous les rapports, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. C'est ce qu'exprime le Christ par les paroles. Est-ce qu'on récolte dans les épines des grappes mûres ou dans les chardons des figues? Ainsi, tout arbre bon fait de beaux fruits. L'arbre pourri fait des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre pourri porter de beaux fruits. Voici le sens de ces mots. Au-dessus du domaine terrestre, charnel, où se meuvent d'ordinaire nos pensées, et qui est partout un mélange inextricable de bien et de mal, il s'en trouve un autre, le domaine spirituel, où le bien n'est que bien, et, même dans le domaine inférieur, ne produit que du bien, où le mal n'est que mal et ne produit que du mal. C'est une conséquence directe de la foi en Dieu. Le bien absolu n'est pas seulement le meilleur de tous les biens, ce serait alors un bien relatif, mais le bien unique, total, qui enferme en lui à un degré éminent tous les biens, y compris ce que recherchent les hommes qui se détournent de lui. Tout bien pur, issu directement de lui, a une propriété analogue. Ainsi, parmi la liste des échos susceptibles d'être excités de Londres dans le cœur des Français, il faut d'abord choisir tout ce qui est purement et authentiquement bien, sans aucune considération d'opportunité, sans aucun autre examen que celui de l'authenticité. Et il faut leur renvoyer tout cela, souvent, inlassablement, par l'intermédiaire de paroles aussi simples et nues que possible. Bien entendu, tout ce qui est seulement du mal, de la haine, de la bassesse, doit être de même rejetée, sans considération d'opportunité. Restent les mobiles moyens, qui sont inférieurs aux biens spirituels, sans être par eux-mêmes nécessairement mauvais, et pour lesquels la question d'opportunité se pose. Pour chacun de ceux-là, il faut examiner complètement, si possible, en faisant vraiment le tour, tous les effets qu'il est susceptible de produire à tel, tel ou tel égard dans tel, tel et tel ensemble possible de circonstances. Faute de ce soin, on peut par erreur provoquer ce dont on ne veut pas au lieu de ce qu'on veut. Par exemple, les pacifistes, après 1918, ont cru devoir faire appel au goût de la sécurité, du confort, pour être plus facilement écoutés. Ils espéraient ainsi conquérir assez d'influence pour diriger la politique extérieure du pays. Ils comptaient bien, dans ce cas, la diriger de manière à assurer la paix. Ils ne se sont pas demandé quels effets auraient les mobiles excités, encouragés par eux, au cas où l'influence conquise, tout en étant grande, ne le serait pas assez pour procurer la direction de la politique étrangère. Si seulement ils s'étaient posé la question, la réponse serait apparue tout de suite et clairement. En pareil cas, les mobiles ainsi excités ne pouvaient ni empêcher ni retarder la guerre, mais seulement la faire gagner au camp le plus agressif, le plus belliqueux, et déshonorer ainsi, pour longtemps, l'amour même de la paix. Soit dit en passant, le jeu même des institutions démocratiques, tel que nous le comprenons, est une invitation perpétuelle à cette espèce de négligence criminelle et fatale. Pour éviter de la commettre, il faut, pour chaque mobile, se dire « Ce mobile peut produire des effets dans tel, tel et tel milieu. Et dans quel autre encore ? Il peut produire des effets dans tel, tel et tel domaine. Et dans quel autre encore ? Telle, telle, telle situation peut se produire. Quel autre encore ? Dans chacune, quels effets serait-il susceptible de produire dans chaque milieu, dans chaque domaine, immédiatement, plus tard, encore plus tard ? À quels égards chacun de ces effets possibles serait-il avantageux ? À quels égards nuisible ? Quel semble être le degré de probabilité de chaque possibilité ? Il faut considérer attentivement chacun de ces points et tous ces points ensemble. Suspendre quelques moments toute inclination vers un choix. Puis décider. Et courir, comme dans toute décision humaine, le risque d'erreur.